Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, à l'occasion de la deuxième édition de l'Université judéo-espagnole qui a eu lieu à Paris du 7 au 12 juillet avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, nous recevons aujourd'hui François Hazard, vice-président de l'association Aquí Estamos et Janine Gerson, auteur de Bella, itinéraire mémoriel, paru chez Edilivre. Votre livre, Janine Gerson, retrace l'itinéraire mémoriel donc de Marianne, enfant cachée pendant la guerre, qui décide à l'aube de la cinquantaine d'interroger sa mère, Bella, qui vit dans une maison de retraite, sur ses origines juives de Salonique et qui va petit à petit renouer avec une histoire, avec une culture, celle des judéo-espagnols. Alors il semblait assez évident de vous recevoir tous les deux ensemble, puisque Janine Gerson, vous avez été présente à cette université d'été et que l'association Aquí Estamos joue un rôle important dans votre livre. Alors c'est pourquoi je m'adresse d'abord à vous, François Hazard. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter cette association?
Oui, Aquí Estamos est née en 1998 d'une publication qui s'appelle La Lettre Séfarade, qui a malheureusement cessé d'exister en 2007. Et cette association, elle regroupe en fait essentiellement la deuxième génération des Juifs venus de l'ancien Empire ottoman, c'est-à-dire des Balkans, de Turquie, de Grèce, et qui ont immigré essentiellement dans les années 20 et 30 en France. La deuxième génération, c'est-à-dire que ce sont leurs parents, ceux qui sont nés en France, qui ont fondé cette association. Et aujourd'hui, nous en sommes à la troisième génération. Oui. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à une génération dont les parents sont nés en France. Et l'objet essentiel de cette association, c'est bien sûr de conserver cette mémoire, mais surtout aujourd'hui de la transmettre, de la garder vivante, bien présente dans le paysage, à la fois dans le paysage juif, hein, dans la communauté juive parisienne, française, mais aussi de la faire rayonner au-delà, et y compris par exemple dans les milieux hispaniques qui retrouvent grâce à notre culture aussi des racines communes.
C'est quoi, s'il y en a une spécificité de votre association par rapport aux autres associations judéo-espagnoles?
Alors c'est, je pense justement, c'est un sous-titre qu'on s'est donné, d'être des judéo-espagnols au présent, c'est-à-dire de ne pas seulement chercher à conserver la tradition, la retrouver, mais surtout mettre l'accent sur la transmission, chercher à avoir des activités pour les enfants par exemple. C'est le cas toute l'année, on organise des ateliers de cuisine pour les enfants. Et à cette université, nous avions plusieurs ateliers destinés aux enfants, par exemple autour de la musique et du chant. C'est le cas le matin, mais aussi un atelier l'après-midi pour les jeunes ou les adolescents qui se poseraient des questions, qui savent qu'ils ont peut-être une filiation judéo-espagnole, mais qui malheureusement n'ont pas eu de transmission dans leur famille et qui voudraient tout d'un coup savoir à quoi ça ressemblait la vie de leurs grands-parents ou arrière-grands-parents et qu'est-ce que ça signifie aussi peut-être pour eux, peut-être un projet à inventer demain.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un regain d'intérêt au sein de la communauté judéo-espagnole pour cette culture, pour cette langue, comme c'est le cas par exemple pour le yiddish?
Oui, alors c'est pas spontané, c'est-à-dire que si on ne crée pas d'événements et si on ne développe pas des projets, rien ne se fait. Mais là, on a eu quand même le témoignage au travers de cette deuxième université d'été judéo-espagnole que des jeunes pouvaient venir s'impliquer. La première université d'été, on a eu un certain nombre de jeunes qui sont venus simplement en curieux ou en spectateurs pour profiter des tables rondes, des concerts, des ateliers que nous développons. Et cette deuxième université, nous avons eu la chance de les voir passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'être derrière le stand d'accueil, d'accueillir le public le soir au concert, d'être présent aussi pour animer certains ateliers. Donc on voit une certaine implication et c'est tout à fait nouveau, dans le milieu de la musique yiddish ou des klezmer. Il y a un certain militantisme qui existe depuis des dizaines d'années, qui est peut-être venu aussi de milieux bundistes, politiques, etc. Ça n'existait pas chez nous, c'est nouveau, mais on sent aujourd'hui ce renouveau d'intérêt, et il n'est pas seulement en France, hein, il existe aussi un peu en Turquie, en Israël, beaucoup en Amérique. C'est donc un mouvement assez général.
Vous savez combien de personnes elle regroupe à peu près, cette communauté judéo-espagnole en France ?
C'est très difficile à dire, d'abord parce que c'est une communauté qui est très assimilée, peu religieuse, peu militante, comme je le disais. On n'a que des idées à travers les chiffres de l'immigration. Donc on estime qu'il y a à peu près 30 000 judéo-espagnols qui ont pu immigrer entre la fin du 19e siècle et la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y en a eu à peu près 10 000 qui ont été déportés. Donc on arrive à des chiffres qui sont de toute façon inférieurs à 20 000 ou quelque chose de cet ordre-là. Après, ils se sont évidemment beaucoup assimilés. Il y a eu énormément de mariages mixtes. Donc le chiffre, ce que l'on sait, c'est que par exemple notre association, qui est l'association qui regroupe sans doute le plus de judéo-espagnols aujourd'hui, on est arrivé en 2 ans, on est passé de 300 à 500 judéo-espagnols. Encarté, si je puis dire, enfin, qui, pas militant, mais qui au moins adhérent. Revendique cet adhérent, oui. Voilà, qui revendique cette ascendance et qui s'y intéresse suffisamment pour avoir une démarche positive.
Alors, vous l'évoquez d'ailleurs dans votre livre, Jeannie Gerson, le quartier de Voltaire à Paris, qui était au cœur de la vie judéo-espagnole. Est-ce que les traces de cette communauté sont toujours visibles aujourd'hui en France, notamment à Paris, par exemple ? Ou est-ce que tout a disparu ?
Rue de la Roquette, hélas, tout a disparu. Mmh. Moi, j'y suis allée il n'y a pas très très longtemps pour voir s'il y avait encore le café Le Bosphore. Je ne l'ai pas retrouvé.
Rue Sedaine, voilà.
Je suis allée rue de la Roquette, je n'ai pas vu le magasin des 5 continents. Et je n'ai trouvé à la place que des magasins de prêt-à-porter chinois. Mmh.
Donc, en tout cas, dans l'espace de la ville, cette inscription, elle est de plus en plus faible.
Elle est très faible. C'est un patrimoine immatériel, en réalité. Mmh. Et c'est quand même l'essentiel est un patrimoine immatériel, ce qui est notre chance, d'ailleurs, parce que celui-là n'a pas disparu. Mmh. Il a été enregistré, il a été collectionné. Il y a eu un effort important des universitaires pour cela. Maintenant, à la recherche de la tradition perdue, ce qu'il faut passer, il faut passer maintenant à la tradition retrouvée. C'est-à-dire qu'il faut que des jeunes se saisissent de ces matériaux pour se les approprier et les faire vivre. Voilà.
C'est le but de cette deuxième université judéo-espagnole. Comment elle s'est présentée exactement, parce qu'elle se termine aujourd'hui?
Alors, l'université d'été judéo-espagnole, c'est un peu un florilège de notre culture. C'est-à-dire que pendant une semaine, on veut avoir une dimension un peu immersive. Donc, donner toutes les composantes. Alors, le matin, nous avons 7 ateliers hein, dans cette université. Donc, le matin, nous avons un atelier de cuisine, 2 ateliers de langue, évidemment avec des niveaux différents, 3 ateliers de chant, dont un réservé aux enfants. Et puis, je parlais d'un atelier aussi sur la culture, simplement, pour ceux qui se posent des questions. Les après-midi, nous avons des conférences, des tables rondes sur tout un tas de sujets. Alors cette année, nous avions choisi un thème fort qui était les maranes. Pourquoi les maranes? Pas parce qu'ils ont une histoire fascinante, évidemment. Ils ont vécu cachés, dans des conditions souvent héroïques. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils ont reconstruit leur judaïsme. Ils sont arrivés dans une situation très assimilée. Ils sont sortis d'Espagne ou surtout du Portugal sans savoir vraiment ce qu'était le judaïsme. Et ils ont dû reconstruire ce judaïsme. Et donc, ils sont passer d'une situation de tradition à une situation de création, de réinterprétation. Or, nous sommes un peu dans cette situation-là. C'est ce que nous avons découvert l'an dernier. Nous avons toute une génération qui n'a pas reçu de façon évidente la tradition et qui doit donc se reconstruire une identité judéo-espagnole. Et souvent, ça passe par des projets, par la généalogie, la cuisine, le chant, la chorale, etc. Bon, chacun a son cheminement propre, ce qui est particulier, mais c'est un peu des judéo-espagnols, je dirais, d'élection, et non plus des judéo-espagnols de tradition. Donc c'est ce qui nous intéresse dans l'aventure marane. Puis cette université, c'est aussi un moment sérieux où on étudie, on a plein d'universitaires qui viennent faire part du meilleur de leurs recherches, mais c'est aussi un moment récréatif, c'est un moment festif. Donc le soir, nous avons des concerts, on a eu des concerts tout à fait exceptionnels, je pense, cette année, avec des groupes qui ne s'étaient jamais produits en France, ou des chanteurs venus d'Israël, venus d'Espagne, venus d'Angleterre avec la chorale de Bevis Marx. Donc des gens totalement inédits et qui nous ont quand même offert de très, très beaux moments, très beaux moments de musique. Donc c'est aussi un moment, je dirais, de retrouvailles. C'est un moment aussi où les gens font aussi, à part, je dirais, des instances, enfin des moments officiels, dans les coulisses, au moment du café, on a aussi un espace de restauration, de belles rencontres, tout simplement. Hein, des gens qui se retrouvent, qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps.
Oui, c'est frappant de voir à quel point, dans votre livre, par exemple, Janine Gerson, vous faites revivre cette mémoire de Salonique, plus précisément, à travers les photographies, les archives, les récits, le chant et la cuisine. Les aubergines, notamment, elles ont un rôle récurrent. On retrouve tout ça, en fait, dans le programme de cette université. L'idée, c'est vraiment de transmettre cette mémoire culturelle par...
Vous savez que la mémoire culturelle passe par la cuisine.
Là, de toute évidence.
Et les aubergines, c'est le légume type de Salonique.
Mmh. On va parler maintenant de ce livre, justement, Bella. Avant toute chose, je ne sais pas trop comment le présenter. C'est un roman, c'est une biographie, c'est une autobiographie. C'était justement l'objet de cette conférence à laquelle vous avez participé à l'université.
Et c'est une très bonne question parce que c'est ni l'un ni l'autre. Mm-hmm. Ça n'est pas un roman, ça n'est pas une autobiographie. C'est ce que j'ai appelé un itinéraire mémoriel. Et je dois dire que c'est mon ami Jean Carasso qui m'a trouvé cette appellation, car je lui avais fait lire mon manuscrit. Et il m'a dit, mais ce que j'appelle, moi, un itinéraire mémoriel, c'est un chemin sur ta mémoire et sur les souvenirs évoqués par le chemin que tu vas faire. Et c'est donc, ça peut être aussi un voyage évocateur de souvenirs. Donc, c'est un peu tout ça. Et c'est vrai que j'ai commencé par écrire un récit et auto-éditer un récit destiné à ma famille, mais que finalement, je me suis inspirée de ce récit pour l'élargir, l'agrandir et en faire ce que j'ai appelé cet itinéraire mémoriel Bella.
Alors la question de la mémoire et surtout de la transmission de la mémoire parcourt tout votre livre. Mais au départ de cet itinéraire mémoriel, donc, oui. le souvenir est associé à la douleur pour Marianne, votre narratrice.
Tout à fait, parce qu'elle fait partie de cette génération qui ne savait rien, qui n'a pas interrogé ses parents. Et il est clair qu'après la guerre, les rescapés de la Shoah ne parlaient pas. Donc c'était une chape de silence et je crois qu'il a fallu une cinquantaine d'années pour que les langues se délient. Alors il y a eu plusieurs facteurs. En ce qui nous concerne, c'est qu'un jour, quand ma mère était en maison de retraite, on s'est plongé dans des photos et que là, on s'est rendu compte que des personnes, on n'arrivait pas à retrouver les noms. Donc on s'est dit que ces gens-là étaient doublement morts.
Mmh.
Ensuite, j'ai rencontré des personnes qui animaient un cercle de généalogie et qui voulaient interviewer des personnes âgées racontant l'incendie de Salonique. Ils voulaient faire un film. J'ai proposé à ma mère de participer à ce film. Et comme elle avait été très très belle et très coquette et qu'elle se voyait vieillir, elle n'a pas voulu qu'on la filme. Donc elle a néanmoins accepté qu'on l'enregistre. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc j'allais la voir. Et au fur et à mesure que j'avais ces rendez-vous qui étaient devenus un rituel entre elle et moi, je me suis rendu compte que d'une part, ça la libérait parce qu'elle se sentait gratifiée, écoutée, et que tout d'un coup, sa parole se libérait. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que petit à petit, elle parlait en évoquant ses souvenirs, mais que surtout, ses souvenirs influençaient mon présent.
Et non seulement votre présent, mais c'est ça qui est très frappant, c'est qu'on voit la succession, enfin la transmission de génération en génération. C'est-à-dire que Bella, je vais l'appeler Bella, là,
oui.
Hein, on va faire...
Bah, tout à fait.
A longtemps tu son passé, et Marianne a aussi beaucoup de mal à se replonger dans cette période, particulièrement cette période de la guerre où elle était enfant cachée, et il faut l'intervention de son fils pour qu'elle accepte d'y faire face.
Ben, je crois que c'est le rôle de nos enfants de nous booster un peu. Et effectivement, mon fils a été très actif dans ce devoir de mémoire et de transmission. Et je crois que c'est le cas dans beaucoup de familles où ce sont les petits-enfants qui libèrent la parole des grands-parents.
En même temps, là, dans ce processus, Marianne avait déjà interrogé sa mère. C'est-à-dire qu'elle avait commencé ce travail-là et en ricochet, finalement, son fils va...
Moi, je crois que ce sont les pièces d'un puzzle qui se mettent en place et que petit à petit, le moment était venu pour Marianne, de se poser des questions et de retrouver ses racines. Et puis, je crois qu'en interrogeant sa mère, elle s'est rendue compte que sa mère ne lui avait pas transmis ses traditions, mais qu'elle-même se sentait coupable, finalement, de ne pas avoir transmis ses traditions à son fils. C'était évident à ce moment-là.
Ce qui est également très sensible dans votre livre, c'est le fait que Marianne avait déjà connaissance, de manière peut-être inconsciente, mais de presque tout ce qu'elle va apprendre au cours de son enquête. C'est-à-dire qu'elle se réapproprie un passé qui lui appartenait sans qu'elle le sache, d'une certaine manière.
Oui, mais je crois que c'était occulté, qu'elle ne voulait pas revivre cette période, car c'était pour elle trop douloureux, et que c'était une façon de vivre dans le présent.
C'est cet itinéraire-là, j'imagine que c'est des choses que vous avez évoquées lors de la conférence à l'université d'été.
Bien sûr.
Il y a une sorte de mode d'emploi presque, parce qu'à un moment dans le livre, donc Marianne va voir l'Alliance israélite universelle pour obtenir des informations sur ce qui se passait à Salonique, des choses comme ça. Il y a une sorte comme ça de...
C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure que j'écoutais ma mère, ça m'a donné envie d'aller voir par moi-même. Mmh. Et effectivement, je suis allée consulter les archives de l'Alliance, où Jean-Claude Kuperminck m'a ouvert ses archives, parce que j'espérais trouver des photos de la classe de Salonique, ce que je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des lettres de ses institutrices. Et c'est ça qui est aussi drôle, finalement, c'est qu'au fur et à mesure où j'allais voir ma mère, elle me donnait des informations à chaque fois complémentaires. Et donc, elle m'a dit un jour, « Ah, finalement, j'ai retrouvé le refrain de la chanson de l'Alliance que nous chantions à chaque distribution des prix. » Et c'était évidemment inscrit dans sa mémoire. Et puis, un jour, elle m'a dit, « Ah, j'ai aussi retrouvé le nom de l'institutrice, c'était Mademoiselle Amaradji. » Et quand je suis allée à l'Alliance et aux archives, j'ai retrouvé une lettre de Mademoiselle Amaradji. Donc c'était un peu ma mère qui me parlait.
Oui, ce qui est drôle en même temps, c'est que votre mère disait qu'elle était une très bonne élève et finalement dans les archives. Donc c'est à la fois la mémoire et rétablir la vérité.
Oui, c'est là où je dis qu'elle s'était peut-être un peu vantée parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle était une excellente élève et qu'on envoyait les excellents devoirs aux archives de l'Alliance. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé. Mais bon, on lui pardonnera, c'est pas grave.
En l'occurrence, peut-être pour revenir justement sur cette université d'été et sur cette conférence, est-ce que vous avez le sentiment, Françoise Hart ou Jeannine Gerson, qu'il y a une vraie recherche des origines et qui passe justement par ce travail de recherche dans les archives ?
Ah, tout à fait. Je peux vous dire qu'à la fin de mon intervention, certaines personnes sont venues m'interroger en me disant comment est-ce que vous avez fait, où est-ce que moi je pourrais retrouver, j'ai des ancêtres à Salonique, mes grands-parents viennent d'Istanbul, est-ce que vous avez trouvé, comment est-ce que je peux faire? Et une autre dame m'a demandé mes coordonnées tout de suite en me demandant de l'aider à écrire son livre. Donc je crois que
aujourd'hui... Parce que vous faites des ateliers d'écriture également?
Mais moi je suis participante, j'anime pas des ateliers d'écriture. D'accord. Donc elle va être très déçue cette dame. Mais bon, je vais l'aider évidemment dans la mesure de mes moyens, mais moi j'ai senti un réel intérêt, oui, tout à fait.
C'est aussi le rôle de l'association que d'aider les gens dans ces recherches individuelles ou...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous avions une seconde table ronde orientée aussi vers les mémoires, mais d'une façon différente. C'était une table ronde qui s'appelait Passion généalogique et saga judéo-espagnole. C'est vrai que c'est une porte d'entrée. Beaucoup cherchent leur filiation. C'est une tradition, d'ailleurs, séfarade et même juive, je dirais en général, de retrouver ses ancêtres et pour pouvoir les honorer, tout simplement, déjà. Et donc, cette table ronde faisait appel à des généalogistes professionnels spécialisés dans la généalogie séfarade. Et c'est très curieux parce que généalogie, on pense à des gens très, très âgés, etc. Et en fait, pas du tout. C'est des jeunes qui sont extrêmement passionnés, qui développent une passion. Alors, ils ne sont pas religieux. La culture les intéresse, mais sous un angle très, très particulier. Ce qui leur importe, c'est de savoir, de remonter le plus loin dans le temps, déjà. Et il y a une espèce de rêve, de Graal, pour les séfarades, c'est de remonter jusqu'à l'Espagne, ou au moins jusqu'au Portugal. Alors, savoir de quelle région on venait en Espagne, de quel rabbin célèbre on peut éventuellement descendre. Donc, pour moi, c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que c'est une porte qui est intéressante de franchir, mais pour aller ensuite vers d'autres choses, et en particulier, évidemment, pour transmettre cette culture, pour en connaître, évidemment, pour mettre de la chair sur ces arbres généalogiques qui ressemblent un peu à des squelettes à un moment, eh bien, il faut les nourrir. Et donc, pour les nourrir, eh bien, il faut savoir comment vivaient ces ancêtres, hein, comment ils pensaient, comment ils s'amusaient, comment ils, quels étaient leurs rêves, qu'est-ce qu'ils faisaient.
Leur métier.
Voilà, leur métier, leur différences aussi. Et donc, c'est disons, une façon de rentrer, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi en sortir quelque part de la généalogie et pour pouvoir aussi s'inventer un présent. Hein, voilà, donc c'est un des sujets. Alors d'ailleurs, la preuve, c'est que l'université d'été se termine par un concert des enfants qui ont travaillé sur l'atelier. Donc on a aussi, on est toujours quand même tourné un peu vers l'avenir.
Alors je suis désolée de vous ramener vers le passé, du coup, pour cette dernière question, mais ces témoignages, comme celui que vous faites, Jeannine Gerson, c'est aussi des choses qui sont importantes pour l'association, c'est-à-dire vous recueillez éventuellement des témoignages, des choses comme ça.
Alors moi, ce que je voudrais dire justement, c'est la raison essentielle pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est d'une part pour transmettre des traditions aux nouvelles générations, à mes enfants, mes petits-enfants, mais c'est aussi pour remettre en lumière la communauté juive de Salonique, et parce que c'était une communauté florissante, cultivée, francophone, francophile, et qui a été complètement décimée. Donc oublié, donc injustement oublié, je dirais. Et comme je trouve qu'on n'en parle pas assez, je me suis donné comme mission d'en parler beaucoup. Et je peux vous dire que j'ai des amis non-juifs qui ont lu mon livre et qui ont découvert l'existence d'une communauté juive de la Salonique. J'ai un ami qui m'a dit « Ah bon, il y avait des juifs à Salonique ?»
Donc l'objectif est réussi.
Absolument. Et je continue.
Jeannine, que tu as une très belle formule. Hein, tu dis, quand on sait d'où l'on vient, on avance mieux.
Mieux quand on sait d'où
l'on vient. Voilà. Et ça, je pense qu'on le partage tous. En tout cas, qui est Stamos, c'est vraiment... le travail de mémoire est essentiel, mais il n'a de sens en même temps que s'il est partagé, transmis. Et s'il peut aboutir à un projet nouveau et à être... inscrit dans le monde d'aujourd'hui. Hein, ce qu'on découvre quand on regarde nos ancêtres, c'est qu'en fait, ils étaient très intégrés. Ils ne vivaient pas dans des ghettos. Hein, évidemment, ils étaient juifs, mais ils prenaient un peu des Grecs, un peu des Turcs, un peu des Bulgares. Notre culture n'a cessé d'évoluer, de s'intégrer plus ou moins, mais elle a toujours été un patchwork. Eh bien, aujourd'hui, on vit en France, on a des liens avec Israël, on va en Espagne. Donc, c'est normal qu'on reprenne aussi le flambeau et qu'on intègre de nouvelles choses à notre culture.
Et alors, justement, si on regarde vers l'avenir, les projets importants pour l'association à venir ?
Alors, les projets importants, on va essayer de développer une chorale d'enfants, par exemple. Alors, d'abord, on a monté de nouveaux projets grâce à la première université d'été. On a une chorale qui a démarré il y a 2 ans et on a aujourd'hui un atelier de théâtre qui a commencé il y a 1 an et qui est né vraiment à la précédente université d'été. Aujourd'hui, je pense qu'on peut faire un travail plus important sur le chant grâce aux ateliers qui ont été montés cette année, en particulier avec un chanteur israélien qui s'appelle Kobi Zarko, qui est une espèce d'unicum, parce que c'est quelqu'un qui a reçu en ligne directe la tradition et on remonte le temps grâce à lui. Voilà. Et il est jeune. Et une ethnomusicologue qui l'accompagne partout, parce qu'il est un informant magnifique pour elle, qui s'appelle Susanna Vecha. Ils ont fait à eux deux un magnifique atelier de chant. Et évidemment, notre rêve, même s'ils sont tous les deux israéliens, c'est de le prolonger. Et on va essayer de le faire, et en particulier pour les enfants. Donc ça, c'est un projet autour de la musique, du chant. Nous avons une revue qui s'appelle Caminando y Hablando, qui s'est beaucoup développée ces 2 dernières années. Nous allons encore plus la développer, et cette fois-ci, peut-être en intégrant... On intègre beaucoup de questions mémorielles, c'est essentiel pour nous. Hein. Surtout, je ne veux pas donner l'impression qu'il n'y a que l'avenir qui compte. Mais on va intégrer aussi des portraits, par exemple, dans cette revue, de nouveaux judéo-espagnols qu'on a croisés à cette université d'été, qui sont venus un peu en curieux. Et on a une graphiste, on a une éditrice, on a voilà, des jeunes qui viennent, qui sont dans les milieux de la création, parce qu'ils cherchent souvent justement à travers ça, à travers des activités artistiques, à retrouver quelque chose. Ils savent bien qu'il y a quelque chose qui est de perdu, de manque. Et ben, on va les aider en les aiguillant un petit peu vers leurs racines aussi. Voilà. Donc, mais on a plein de projets. On a des projets dans le domaine de l'édition. On a des surprises aussi qu'on garde pour nous encore.
Je vous remercie d'être venus, Jeannine Gerson et François Hazard. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.